Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade. Bonjour le Beaujolais, bonjour le Val-de-Saône, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022 et il fait toujours très beau dans le Beaujolais. Le soleil brille, les températures montent à 22 degrés. Au programme de notre émission, on va parler de cuisine avec notre cuisinière Najat Guidoum. On va parler plantes sauvages dans la rubrique Ampliflore. Et puis on va parler sociopolitique avec le prof Patrick. Mais d'abord avec notre invité du jour, on va s'intéresser au festival de théâtre amateur qui a lieu chaque année à Villefranche. C'est le festival Terre de Seine qui aura lieu ce week-end du 28 au 30 octobre avec 8 spectacles programmés de 8 compagnies du Beaujolais. C'est organisé par l'Office culturel de Villefranche. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un spectacle en particulier. Il aura lieu le samedi 29 à 21h. Ça s'appelle « La paix perpétuelle » de Juan Mayorga. Et c'est présenté par la compagnie de théâtre La Parenthèse. Pour nous en parler, l'un des comédiens, c'est Vincent Taranto, qui sera avec nous par téléphone. Avant tout ça, un petit peu de musique comme d'habitude. On commence avec Algy aujourd'hui, un extrait de leur dernier album. Ça s'appelle « The Actor ». Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Oh,
C'était Algie sur Calade avec The Actor. Et on continue le programme de cette émission.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on va passer un petit moment avec Vincent Tantaro de la compagnie de théâtre de la Parenthèse. Bonjour.
Bonjour.
Cette compagnie de théâtre, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'elle est dans le Beaujolais depuis 1980.
Depuis plus de 20 ans, en fait. Depuis plus de 20 ans. C'est une compagnie qui répète actuellement à Jasson, au théâtre de Jasson. Et c'est le metteur en scène, Jean-Michel Gaud, qui fait de la mise en scène du théâtre depuis pas mal d'années, qui au départ est chirurgien. Et ça fait un peu plus de 20 ans, enfin 20 ans sûr, qu'il fait de la mise en scène.
D'accord.
Voilà. Et une compagnie avec, on est plusieurs membres, cette année on n'est que 6 à jouer, mais il y a eu des pièces où on était 12, 13, 14, donc il y a des gens qui passent, d'autres qui restent, d'autres qui reviennent, enfin comme toutes les compagnies quoi.
Ouais.
Comme toutes les compagnies, il y a des arrêts, il y a des reprises, voilà.
Vous êtes comédien au sein de cette compagnie et vous êtes notamment à l'affiche du dernier spectacle que vous présentez, c'est la Paix Perpétuelle.
Ça fait
combien de temps que vous le travaillez et que vous le jouez, ce spectacle?
On a commencé à le travailler un peu avant le Covid. Ouais. On n'a pas pu le jouer parce que Covid, comme tout le monde, à cause du Covid, à cause du confinement, on a été obligé d'arrêter. On devait le jouer à Cogny, dans une salle privée. Et l'auteur, Juan Mayorga, est venu à Cogny d'ailleurs. Mais à l'époque, on a eu une des personnes qui jouait avec nous qui était positive. Et du coup, on n'a pas pu faire la représentation.
Ah, c'est terrible.
C'est terrible. Donc voilà. Ce qui fait que depuis que les mesures sanitaires se sont améliorées, on l'a joué dans différents endroits. On l'a joué à Jasson, 3 représentations à Jasson au mois d'octobre l'année dernière. Et on l'a joué aussi au mois de mai. Nous l'avons joué au sein du festival de Châtillon-sur-Chalaronne, qui est un festival amateur, mais national pour le coup. Mmh. Et ça a très, très bien fonctionné. On était assez contents de notre passage là-bas.
Et vous avez eu... Vous avez eu une autre occasion de jouer devant l'auteur du spectacle ou ça s'est pas représenté?
Mais il y aura sûrement la possibilité parce que Jean-Michel Gaud, le metteur en scène, est en contact avec Juan Mayorga et je pense que on va peut-être essayer de le faire venir pour une autre représentation. Mmh. Peut-être d'ailleurs au mois de janvier puisque nous jouons le 9 janvier pour le Rotary. Pour le Rotary de Villefranche, nous jouons au Théâtre de Villefranche le lundi 9 janvier à 21h.
Ouais.
Et donc, on aimerait bien que Juan Mayorga puisse assister à cette représentation.
Très bien. Bon, la date la plus proche, c'est ce samedi 29 octobre.
Et ce samedi.
À 21h.
29 octobre à 21h au Théâtre de Villefranche, au sein du Festival Terre de Seine, qui est un festival amateur qui existe depuis plusieurs années. Et voilà.
Et cette pièce, parce qu'on ne sait pas forcément de quoi elle parle, ça raconte quoi, la paix perpétuelle?
Alors, la paix perpétuelle, c'est une pièce qui... C'est l'histoire de 3 chiens, Odin, Emmanuel et John. Voilà les noms des chiens, qui sont 3 chiens finalistes d'un concours d'intégration à la prestigieuse unité antiterroriste Cassette. En fait, il reste 3 épreuves et un seul collier blanc.
D'accord.
Donc, à la clé... Selon un des chiens, les perdants seront transformés en saucisses, tout ça entre parenthèses. Autant dire que l'atmosphère est tendue. Ça mêle habilement l'humour, le cynisme, parce que les textes de Juan Mayorga ont toujours pour objectif de montrer ce que nous ne voulons pas voir. Donc nous, en l'occurrence. Donc 3 chiens, 3 personnalités qui nous ressemblent. Est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Ça sera au public de juger.
Très bien. C'est un spectacle où on rit, où on pleure.
Alors, c'est un spectacle. Il y a des passages qui sont drôles. Parce que les chiens ont tous un caractère très différent. D'ailleurs, il y a un chien qui sort de, il y a un chien qui a été mélangé avec plusieurs races. Donc du coup, il est un petit peu différent des autres. Il y en a un qui est très 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 fort au niveau du flair, et puis il y en a un autre qui est un peu plus intellectuel, puisque voilà donc. Donc voilà, c'est un philosophe, un des chiens, il a appris la philosophie. Du coup, il a une manière d'être, une manière de dire les choses qui sont complètement différentes. Alors, il y a des moments qui sont un peu plus durs, des moments qui sont drôles. Il y a du combat, hein. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'animalité et dans l'humanité aussi. Et puis, dans cette pièce, il y a aussi l'humain, qui est la personne qui nous fait passer les examens. Que le metteur en scène a habilement choisi de prendre une femme pour représenter l'humain.
D'accord.
Ce qui est très bien. Voilà une mise en scène de Jean-Michel Gaud qui est vraiment superbe et qui grâce au Covid, lui a donné l'idée de nous faire jouer, mais attachés à des plots en béton, comme des animaux pourraient être attachés pour empêcher de se battre. Et du coup, ça donne un jeu complètement différent et très particulier. Et c'est très difficile de parler de la pièce. Je pense que c'est une pièce qu'on peut vraiment voir. Le texte est magnifique et profond.
Et donc, vous jouez l'un des chiens ? Vous jouez lequel ?
Moi, je joue John, celui qui... C'est un chien qui a été... on va dire qu'il a été mélangé avec plusieurs races.
D'accord.
Qui est boxeur, pitbull, boxer, rottweiler, enfin voilà, différentes.
Ah, des races de.
Voilà, races de chiens.
Voilà. Donc ce spectacle, on pourra le voir ce samedi dans le festival Terre de Seine. Vous nous
Terre
en
de Seine,
parlez
oui,
un petit peu. Ça marche comment ce festival?
Alors c'est un festival qui est assez connu maintenant sur Villefranche, parce que ça fait vraiment plusieurs années qu'il existe. Actuellement, il est organisé par notre amie Christine Forger, hein, donc qui est présidente de l'OCV à Villefranche. Mmh. C'est un festival qui commence vendredi soir à partir de 20h30 avec une première pièce donc vendredi soir, et puis samedi une pièce à 10h, une pièce à 14h, une pièce à 16h, une à 18h, une à 21h. Dimanche matin encore une autre pièce, et le dimanche après-midi il va y avoir un spectacle qui est gratuitement offert par l'office culturel à toutes les personnes qui sont là, tous les spectateurs, et puis vers 15h il y aura une remise de prix. Il faut savoir que pendant ce festival il y a un jury qui voit bien sûr toutes les pièces, et donc il y a un premier prix pour la pièce, un deuxième prix, un troisième prix, et puis peut-être aussi un prix pour le meilleur comédien ou comédienne aussi.
D'accord. Bon, et voilà. C'est avant tout un moment convivial, j'imagine que c'est un moment de rencontre pour les compagnies de théâtre de la région.
Oui, c'est très très sympa, oui. Vraiment, c'est très convivial, toutes les compagnies voient les spectacles des autres, c'est toujours intéressant de voir le travail des autres, c'est toujours très très bien, donc c'est vrai qu'il y a une vraie convivialité, il y a alors le dimanche, il y a un petit buffet, un pot pour toutes les personnes qui seront présentes. Donc c'est très convivial et c'est pour plein de gens qui aiment le théâtre, pour ceux qui veulent le découvrir. Et l'OCV essaye vraiment de faire venir aussi un public de plus en plus jeune pour qu'il découvre le théâtre.
Et comment ça se passe l'enchaînement dans la journée de samedi? Je vois une séance à 16h, une à 18h. Il y a un roulement rapide dans les coulisses, j'imagine.
De toute façon, dans n'importe quel festival, quand vous avez des pièces qui se suivent comme ça d'une manière assez rapprochée, vous avez très peu de temps pour enlever vos affaires, et puis la pièce suivante met en place son décor. Alors bien évidemment, beaucoup de choses ont été préparées à l'avance, comme le plan de feu, pour la partie un peu plus technique.
C'est les lumières, ça.
Voilà, tout ce qui est les lumières, toutes ces choses-là, le son, tout ça est envoyé un petit peu à l'avance aux techniciens et aux responsables de la régie au théâtre de Villefranche, hein, en l'occurrence Florian Sanaville, je crois, je dis pas mal son nom. Et donc tout ça est mis en place, et puis après il faut changer les décors, et il y a un excellent travail vraiment qui est fait par toute l'équipe de la régie du théâtre de Villefranche, qui est vraiment très très opérationnelle et qui change d'une manière très rapide et qui s'adapte aux pièces. N'oublions pas que nous sommes des amateurs, donc voilà.
Très bien. Bon, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Ce sera au festival Terre de Seine du 28 au 30 octobre. Merci beaucoup, Vincent Tintaro.
Merci à vous. Merci à vous. Puis j'espère que beaucoup de gens viendront. c'est toujours bien qu'il y ait du monde.
Au théâtre, c'est important de continuer à aller voir le théâtre, bien sûr. Très bonne journée.
Les gens découvrent le théâtre. Merci, bonne journée à vous aussi.
Ensemble sur Calade.
Allez, et pour le festival Terre de Seine, on a des places à faire gagner pour chaque spectacle. Pour gagner vos places, il suffit de nous appeler au 04 74 68 80 82. Je le répète, 04 74 68 80 82. Et vous remportez deux places pour le spectacle de votre choix. On continue en musique avant d'écouter nos rubriques suivantes. On va parler cuisine, on va parler plantes sauvages. Mais d'abord, on écoute Métronomie avec Right on Time. Time, c'est Métronomie qu'on va entendre à l'instant sur Calade.
Oh, vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Allez, on est avec Nadjet Guidoum en studio pour nous parler de recettes, de cuisine, de ce genre de choses. Bonjour Nadjet.
Bonjour Mathieu.
Bon, alors qu'est-ce que vous avez
prévu? J'avais envie de parler de poisson aujourd'hui.
Très bien, pourquoi pas?
Oui, je vous propose une recette alors, et ça va être les croquettes de poisson, une recette très facile à réaliser.
Ok.
D'accord? Allez, eh bien, il nous faut pour 4 personnes 4 filets de poisson blanc. Vous prenez ce que vous voulez, du cabillaud, du colin, du lieu, hein, okay. Comme ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. 3 grosses pommes de terre, du basilic haché,
ouais.
D'accord, du basilic frais haché, un petit peu de farine, un petit peu de chapelure, un petit peu, c'est à peu près ce que l'on va mettre dans une assiette creuse, vous voyez, okay. Ouais, on va dire 150 grammes à peu près,
ouais.
D'accord, un petit peu donc de chapelure, je vous l'ai dit, un œuf, du beurre, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Allez,
bien.
Eh bien, on va commencer par faire cuire nos filets de poisson, soit à la poêle avec un petit peu de beurre, soit dans un court bouillon, c'est pas mal aussi, donc avec un petit fond d'eau dans une casserole.
Ouais.
D'accord? Donc on les fait cuire 6 à 7 minutes, pas plus, ça suffit. Dans une autre casserole, eh bien, nous allons faire cuire nos pommes de terre. Mais avant, nous allons les peler, les laver, les couper en petits cubes. Et là, nous allons les faire cuire au moins 15 à 20 minutes dans une casserole d'eau salée. D'accord ?
D'accord.
Voilà.
En petits cubes.
En petits cubes, oui. Ça, alors, disons que la cuisson sera plus rapide comme
oui,
ça.
Oui,
hein,
oui,
on
oui.
pourrait très bien les faire cuire à l'eau telles quelles. On les lave et puis on les fait cuire à l'eau.
Mais ça là, prend du temps.
Oui, après, il faut les éplucher, disons. Ouais. Donc, dès que les pommes de terre sont fondantes, c'est très bien, on retire du feu. D'accord ? Et nous allons justement écraser les pommes de terre à la fourchette.
Ouais.
D'accord ? Donc, grossièrement. À la fourchette, on va y ajouter une petite noisette de beurre et vous y ajoutez à ce moment-là votre basilic.
D'accord.
Vous mélangez bien et il ne vous reste plus qu'à ajouter votre poisson que vous avez légèrement effilé, que vous avez coupé en tout petits morceaux. D'accord. Vous mélangez l'ensemble, vous ajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, vous goûtez, vous réassaisonnez si jamais vous trouvez qu'il manque quelque chose.
Ouais.
Vous pouvez même, si vous voulez, mettre quelques épices, hein, si vous aimez ça, vous avez des épices à poisson, hein, des mélanges comme ça d'épices qui se vendent comme ça dans le commerce. D'accord. Alors, dans une première assiette creuse, on va y mettre un petit peu de farine.
Ouais.
Dans une deuxième assiette, on va casser l'œuf et on va battre cet œuf. D'accord ? Et dans votre troisième assiette, on va y mettre de la chapelure.
Ouais.
D'accord ? Donc farine, œuf, chapelure.
Et on trempe.
Vous allez légèrement mouiller vos doigts et vous allez former des boules de préparation au poisson. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça.
Ce qu'on a fabriqué avec...
Voilà, ce qu'on a fait de notre préparation. Vous allez faire en fait quelques petites boules et vous allez aplatir un petit peu cette boule. L'idée, c'est d'avoir des petites croquettes. Donc, vous voyez, bon, ce n'est pas des petites boules rondes, mais on aplatit un petit peu des petites galettes. Hein.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, on va préparer tout ça et on va commencer par recouvrir ces petites galettes de farine.
Ouais.
D'accord ? On commence par la farine. Ensuite, on les plonge dans l'œuf et on les recouvre de chapelure.
Ouais.
D'accord ? Donc on fait ça avec toutes nos petites... avec toute notre préparation, toute notre pâte. D'accord ? Et dans une grande poêle, eh bien, on va faire chauffer soit du beurre, soit de l'huile, ce que vous voulez. Moi, je préfère mettre de l'huile.
Ouais.
Je trouve ça meilleur, mais bon, certaines personnes préfèrent le beurre. D'accord ? Et vous allez faire cuire les petites galettes 4 minutes de chaque côté, afin qu'elles soient bien dorées.
Ok.
D'accord ? C'est tout.
C'est aussi simple que ça.
Mais oui, et alors, avant de les déguster, déposez-les quand même sur une feuille de papier absorbant,
de sopalin
pour enlever le surplus, l'excédent de gras.
Ouais.
D'accord ?
Ouais.
C'est tout. Et puis, on peut servir ça avec un petit peu de riz, par exemple, avec un jus de citron aussi, c'est bon. Et puis, une petite sauce maison.
C'est une excellente idée de repas. Et la technique pour paner, ça marche pour à peu près tout. On peut paner ce qu'on veut, comme ça marche très bien.
Oui, farine, œuf, chapelure.
Ouais. Il faut se souvenir de l'ordre et pas
comprendre. C'est ça.
Enfin, on s'en rend vite compte. Merci beaucoup, Nadjet.
Merci.
À très bientôt.
À tout bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, on part du côté des plantes maintenant.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplifusienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, je vous présente aujourd'hui le sorbier domestique, que l'on nomme aussi cormier. Les sorbiers sont classés dans la famille des rosacées, dans laquelle on trouve aussi d'autres arbres fruitiers, comme le poirier et le pommier sauvage, ou des plantes herbacées, telles que la reine des prés ou encore la fraise des bois. Le nom scientifique du cormier est Sorbus domestica. C'est un arbre qui peut atteindre 15 à 20 mètres de haut. Sa longévité est de 150 à 200 ans. Son écorce est grise fissurée. Elle ressemble à celle du chêne. Son bois est un des plus denses des arbres de France. Ses feuilles sont composées de 13 à 17 folioles, voire jusqu'à 21, allongées et dentées dans les deux tiers supérieurs. Il donne des fleurs blanches groupées en bouquets à l'extrémité des rameaux. Très décoratif, il était autrefois cultivé pour ses fruits, qui arrivent à maturité en début d'automne. Ils sont nommés cormes. De forme globuleuse, ou en forme de petites poires de 3 à 4 cm de diamètre. Ils se consomment blé, comme les nèfles. Il existe 18 autres espèces de sorbiers. Une confusion serait possible avec le sorbier des oiseleurs, dont les feuilles sont composées de folioles dentées jusqu'à la base. D'autres confusions sont improbables avec les autres sorbiers dont les feuilles sont simples ou découpées de façon caractéristique et les fruits également comestibles. Son habitat se trouve dans les bois clairs de feuillus, dans les haies, parfois au bord des routes, à proximité des villages où ils étaient probablement cultivés. Avant leur blétissement, les cormes sont immangeables, dures, astringentes. Une fois blettes, elles deviennent molles, crémeuses et agréablement aromatiques. Elles font partie de nos meilleurs fruits sauvages. La précaution d'emploi est sur ces pépins qui contiennent une substance libérant par hydrolyse de l'acide cyanhydrique. Il serait toxique d'en manger de grandes quantités. Donc, comme pour des pommes, pensez à recracher les pépins sans les mastiquer. Les cormes blettes sont riches en sucre simple, en sorbitol, en pectine et en vitamine C. Le sorbitol est un composant qui augmente l'excrétion de la bile et les sécrétions du pancréas. Il accélère le transit intestinal et favorise l'augmentation de la vitamine B12. Maintenant, quelques idées de préparation culinaire. Je vous conseille, pour débuter, de confectionner une purée de cormes. Celle-ci pourra ensuite servir pour des plats salés ou sucrés. Prenez vos cormes blettes et faites cuire dans une casserole, à feu doux, pendant 20 minutes. Passez les fruits une première fois au moulin à légumes. Récupérez la purée obtenue, mettez à nouveau dans une casserole en complétant d'eau de façon à couvrir la pulpe de fruits. Faites à nouveau cuire pendant une dizaine de minutes. Passez une deuxième fois au moulin à légumes. Vous pourrez ajouter à la purée obtenue quelques noix de beurre, du sel et du poivre. Son goût se marie bien avec du sarrasin grillé. Ou alors, pour les gourmandes et les gourmands, ajoutez à la purée de base du miel et de la cannelle en poudre et utilisez celle-ci pour tartiner des galettes de sarrasin ou des crêpes. En fait, toutes les recettes que vous réalisez avec des pommes peuvent s'appliquer aux cormes. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Bon, dans quelques minutes, ce sera l'heure de la rubrique du prof Patrick. On va déjà se mettre dans l'ambiance avec les soviets suprêmes. Voici Rongrakatikatong.
Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites la tantine, se tire avec tes tétards. Un tantinet têtu, tu voudrais savoir, tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu. La retourner, lui faire tâter du tatami. T'es triste, tu voudrais têter la tétine comme un toutou. Tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné. Et le temps te tasse, alors tu tises et tu tâtes. Et t'étais d'autres tantines, mais la chair est triste. Et le temps fait tic-tac. Et personne ne toque, tu craques depuis qu'elle a pris. C'est cliqué, c'est clac. Et le temps fait tic-tac. Personne ne rattrape, le doute rentre dans ta tête. Et tu tombes dans la trappe. Tu regrettes le temps d'antan quand t'étais son titan. Tu t'étanisais son palpitant. Qu'elle était attirée par ton statut de matin orimenté. Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée. C'est toi qui l'attends tout retourné comme une tarte tatin. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Elle retourne
tour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes, tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Tu fais le tech, elle le tout ou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand, quand t'as dé. L'homme qui sait qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui t'adore, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui t'adore, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui t'adore, t'es tout dépité, depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui t'adore, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton.
Bon, j'espère que vous avez tout compris, c'était Soviet Suprême avec Rong Rakatikatong.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Eh oui, on retrouve tout de suite le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, je laissais un indice sur ce dont on allait parler
Soviet
aujourd'hui.
Suprême, bien sûr, bien sûr. Oui, on va parler de la Russie, Mathieu, bien vu. Est-ce que tu as entendu, Mathieu, ce petit refrain persistant dans les médias concernant les sanctions économiques prises contre la Russie? Un refrain alimenté la plupart du temps par des représentants politiques de l'extrême droite, française notamment, et leurs sympathisants. Les sanctions ont échoué, elles pénalisent plus la France et l'Union européenne que la Russie, il faut donc les supprimer. Fermons les guillemets. C'est marrant, hein, Mathieu, ce réflexe un peu pavlovien de l'extrême droite qui consiste à toujours prendre le parti de l'envahisseur. Hein. Au moins, on peut dire qu'on n'est pas surpris en même temps avec eux.
Il y a une constante, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour autant, avec le prof Patrick, tu le sais, Mathieu, il n'y a pas de question taboue. Donc, on va se poser la question, est-ce que ces sanctions sont efficaces ou pas?
Ouais.
Voilà. Très bien. Alors mes sources, je me suis basé sur deux économistes. Un jeune économiste qui a un blog qui s'appelle l'économiste sceptique, qui fait des newsletters hebdomadaires et qui est très intéressant. Et un économiste assez réputé, spécialiste de la Russie, qui est Jacques Sapir. L'économiste sceptique est plutôt... a plutôt un jugement global pour les sanctions. Jacques Sapir a plutôt un jugement global critique.
D'accord.
En quelque sorte. On va commencer par le commencement. Déjà, de quelles sanctions parle-t-on? Je vais faire un petit résumé des sanctions. Hein, je vous fais grâce des aspects techniques. Première sanction, premier niveau de sanction, interdiction pour la plupart des banques russes de faire des transactions en dollars. Donc, de permettre aux entreprises russes de faire du commerce, faire facilement du commerce avec le reste du monde. Pourquoi? Parce que le dollar, c'est la monnaie internationale pour les paiements internationaux. Deuxième niveau de sanction, interdiction pour toute entreprise, quelle que soit sa nationalité, d'aller exporter en Russie un certain nombre de produits de haute technologie,
d'accord,
notamment les fameux semi-conducteurs. La Russie, ne sachant pas fabriquer ces produits, elle est complètement dépendante de l'étranger à ce niveau.
Okay.
Troisième niveau de sanction, les actifs financiers de la Banque centrale russe qui étaient situés hors Russie ont été gelés, ce qui impacte forcément la capacité d'action de la Banque centrale russe. Alors, quelles ont été les conséquences sur les 6 mois écoulés depuis l'annonce et la mise en place de ces sanctions? Dans un tout premier temps, presque jour pour jour, hein, à un jour près, le cours de la monnaie russe, le rouble, s'est effondré. Ce qui a rendu les importations évidemment beaucoup plus coûteuses. Mais la Russie a très rapidement réagi. Elle a, dans les semaines qui ont suivi les sanctions, obligé les acheteurs de gaz et de pétrole russes à payer en rouble, de façon à éviter le problème de la monnaie du dollar. Mmh. Ce qui a eu pour effet, en fait, de stabiliser la chute du rouble d'abord et ensuite de faire remonter le cours du rouble.
D'accord.
Bon, il faut savoir qu'à partir du moment où les Russes ne peuvent plus commercer à l'étranger, ben, ils ont plus beaucoup moins l'occasion d'aller vendre du rouble sur le marché des devises, donc ça, la baisse elle a cessé. Et cette obligation de payer en rouble a fait remonter le cours du rouble. Donc une première contre-attaque russe qui était assez maligne. La Russie a commencé, et la deuxième décision encore plus forte, à fermer le robinet du gaz aux Européens, on le sait, du gaz et du pétrole. On aurait pu penser que la Russie allait souffrir de cette perte de revenus, et bien apparemment, et j'insiste sur le « apparemment », ça ne semble pas avoir été le cas, puisque d'autres pays que les pays de l'Union Européenne se sont bousculés au guichet russe pour acheter du gaz russe. Ceci dans un contexte de prix qui était très élevé. Hein. Déjà, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix d'énergie étaient très élevés. Avec le déclenchement de la guerre et tous ces événements, les prix du gaz ont doublé. Voilà, tout simplement. Donc ça a permis à la Russie d'engranger des revenus substantiels. 158 milliards d'euros de revenus d'exportation sur les 6 premiers mois de 2022. Et des recettes fiscales issues de la vente de gaz et pétrole russe, de 43 milliards sur les 6 premiers mois pour la Russie. Alors c'est pas 43 milliards de plus que l'année précédente, hein, comme l'affirmait Marine Le Pen, grande admiratrice de Poutine, mais fâchée souvent avec les chiffres. Hein, non, c'est 43 milliards tout court. Alors à partir de l'été, ça se calme. À partir de juillet et août, les chiffres de vente sont en baisse. Pourquoi ? Bah parce que l'économie elle est en ralentissement. Et quand l'économie se ralentit, eh bien la demande se ralentit, ce qui fait baisser les prix. De plus, les ventes hors Union européenne de pétrole et de gaz ne compensent pas la baisse des livraisons à l'Union européenne. Ben pourquoi ? On achemine du gaz en construisant des pipelines. Hein. Le gaz, ce n'est pas livré en claquant des doigts. Et les pipelines, ben, quand ils n'existent pas, il faut les construire. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est pour cette raison que les volumes journaliers de gaz exportés dans le monde entier ont été divisés par deux depuis le début de l'année. Et que les revenus des compagnies gazières russes ont été diminués de moitié.
D'accord.
Depuis le début de l'année. Donc voilà pour les, entre guillemets, performances russes face aux sanctions. Bon, c'est des performances quand même qui ne sont pas négligées et qui font dire à leurs supporters français et européens côté extrême droite que les sanctions ne sont pas efficaces. Ouais. Mais il faut aller un petit peu au-delà de ça. Et il faut comprendre, et c'est sans doute pas très réjouissant, qu'on est dans un bras de fer qui va durer. On n'est qu'au début d'un bras de fer qui va durer. Et donc les effets négatifs côté russe qui commencent à se faire sentir ne vont que s'aggraver, en quelque sorte. Déjà, la cessation des ventes de gaz aux Européens, c'est un one-shot, hein, d'accord ? C'est un coup stratégique majeur hein, de Poutine, c'est clair. Mais c'est un one-shot, parce qu'une fois que c'est fait, et il faut qu'ils en assument les conséquences, qui, elles, vont peser de plus en plus côté russe. Ils vont devoir trouver d'autres clients. Ouais. Alors, on a dit, hein, des pays se bousculent au portillon pour remplacer les pays européens. Mais les conditions ne vont pas être les mêmes pour les Russes. Les pays qui viennent remplacer les pays européens, eh bien, ils sont mieux placés dans les négociations, et donc les Russes vont devoir faire des concessions côté prix face à ces nouveaux clients qui, eux, sont en position de force face aux Russes. Parce que les Russes ont besoin de remplacer leurs clients européens perdus. Sachant que côté volume, les Russes, de toute façon, ne pourront pas compenser à 100% les baisses dues aux pertes des clients européens. Bon, quelque part, le plus important, il n'est pas là. Le plus important, il est dans la dépendance réelle de l'économie russe à la technologie occidentale. Ça, on n'en parle pas encore, mais les embargos sur la vente des produits de haute technologie aux Russes vont de plus en plus gravement perturber leur économie, et notamment perturber leurs secteurs les plus puissants, hein, l'extraction énergétique et minière, et l'exploitation minière et énergétique, et le secteur militaire. Continuer à extraire du pétrole et du gaz, construire des gazoducs pour approvisionner les nouveaux clients, fabriquer des armes, tout ça, ça demande des technologies que les Russes importent habituellement parce qu'ils n'ont pas les moyens de les fabriquer par eux-mêmes. Résultat, même si la Russie parvenait d'ici 10 ans à construire l'intégralité des projets de gazoducs et de terminaux gaziers qui sont en cours, et déjà rien que ça, c'est pas évident qu'ils y arrivent, du fait des difficultés pour obtenir des pièces de haute technologie, même si elle le faisait, elle pourrait seulement compenser un tiers du volume des capacités de transport qu'elle a vers l'Europe actuellement, enfin qu'elle avait et dont elle ferme le robinet. Donc il va y avoir des difficultés de plus en plus importantes de ce côté-là pour l'économie russe. Concernant l'armée russe, on sait qu'elle est en grande difficulté. Hein. La production russe de chars d'assaut aurait été stoppée à peine un mois après l'invasion, faute de pièces de rechange pour fabriquer les chars de remplacement. L'armée russe aurait également acheté des munitions d'artillerie à la Corée du Nord. Attention, au secours. On sait aussi qu'elle n'arrive pas à produire, mais alors loin de là, les missiles, munitions, fusées, au rythme où elle les détruit sur le champ de bataille ukrainien. Un champ de bataille sur lequel l'armée russe subit d'ailleurs de graves déconvenues. Donc voilà, du côté de l'armée, c'est pas évident pour elle, et elle est déjà en difficulté, et les difficultés, du fait des problèmes pour obtenir des pièces ou les fabriquer, vont s'aggraver. On va finir avec quelques chiffres globaux. Hein. Les autorités russes ont concédé que leur PIB diminuerait de 2,9% en 2022, mais beaucoup d'experts pensent que leurs chiffres sont, depuis 2-3 ans, truqués, hein, ou un petit peu embellis. D'accord ? Et c'est pour ça que le FMI, de son côté, prévoit pour l'année 2022 une baisse du PIB russe plutôt de 6%, donc le double.
D'accord.
6% de baisse de PIB, c'est un choc économique d'une grande violence. Hein. Faut avoir conscience de ça. Et en plus, sur un pays dont la taille est plutôt réduite en termes de puissance économique, hein, le PIB russe est du même niveau que le PIB espagnol, c'est-à-dire environ 1500 milliards d'euros. Donc c'est pas une économie très, très, très puissante, et ce choc va être très violent. La Russie, en plus, n'est pas épargnée, pas plus que les autres pays européens, par l'inflation, qu'on estime à 13% par an, donc assez forte. Et donc, la grande dépendance de l'économie russe vis-à-vis de son secteur énergétique fait que les difficultés que j'ai un petit peu annoncées de ce secteur-là, eh bien, vont tirer vers le bas encore plus l'économie russe. Conclusion, on peut dire qu'on est dans un bras de fer qui ne fait que commencer, en fait. Donc, inutile de tirer des conclusions définitives sur un bras de fer qui débute. Il est possible que la Russie n'ait pas d'autre solution pour s'en sortir que de devenir un vassal de la Chine. Parce que la Chine est le seul pays qui est capable de lui fournir des solutions alternatives pour tous les produits technologiques qu'elle ne peut plus trouver en Occident, du fait de l'embargo. Le seul problème, c'est que ça va se faire au prix d'une soumission politique sur laquelle les Chinois ne vont pas transiger. Ouais. Et ça, quand on connaît l'esprit russe, eh bien, c'est un remède qui pourrait bien être pire que le mal initial. J'en ai terminé, Mathieu.
Tu parlais de projets sur 10 ans pour la reconstruction des gazoducs.
La construction de nouveaux gazoducs, oui, ouais. Pour aller alimenter des pays qui veulent bien acheter du gaz russe. Mais il faut le convoyer, le gaz russe. Hein, il n'est pas convoyé par terminaux gaziers, etc.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un bras de fer qui est prévu sur au moins 10 ans.
Alors là, les plans, de toute façon, la Russie a des plans structurels sur 5 ans, 10 ans de construction de gazoducs de manière à élargir sa clientèle potentielle. Ça, en même temps, c'est de la saine gestion. Donc, c'était sans doute des terminaux qui, pour la fin, des gazoducs qui, pour la plupart, étaient prévus. Mais ça prend des années et des années. Hein. Ouais. On voit les conflits, tel pays peut bloquer pour X raisons. C'est hyper compliqué de construire des gazoducs. Hein.
D'accord. Bon, situation qui va donc durer.
Perdurer, exactement.
Malheureusement. Merci beaucoup, Franck Patrick. À tout bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Allez, on a parlé de Russie, j'en profite pour écouter les Beatles. De toute façon, il y a toujours un prétexte pour écouter les Beatles. Voici Back in the USSR.
Les Beatles sur Calade avec Back in the USSR, et c'est avec ce titre qu'on va terminer notre émission Ensemble sur Calade. Merci de l'avoir suivi. Vous la retrouvez comme d'habitude en réécoute sur radio-calade.fr. La rediffusion, c'est le matin à 10h, et moi je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. On parlera littérature avec un certain David Petit-Laurent. Je vous souhaite une excellente journée. À demain, ciao.
Ensemble sur Calade.